Aujourd'hui, à notre émission, une page d'histoire qui a marqué vraiment le Québec. Puis on s'est dit, cette semaine, c'est vraiment une semaine qui est importante par rapport à cet événement-là. On revient sur la crise d'octobre dans les années 70. 48 ans aujourd'hui, débutait donc une semaine vraiment intensive dans ce dossier-là. Félix Fournier est avec moi pour en parler. Bonjour.
Bonjour, Richard.
On va faire quelque chose d'exceptionnel. À chaque jour, on va suivre les événements qui ont marqué l'histoire à partir du 15 octobre, parce que c'est important. Mais avant d'arriver là, revenons en arrière, parce qu'il y a même des liens avec la Gaspésie par rapport à cette crise d'octobre au Québec.
Exactement. La création du FLQ en février 1963, c'est la base, c'est le point de départ. Et on va recommencer ça.
Non, mais OK. On recommence là.
Okay,
ouais. La création du FLQ.
C'est parce que là, toi, tu m'attendais que je parle de la Gaspésie.
Non, on le fera plus loin.
C'est bon, c'est pour ça que ça m'a...
un lien. Non, parfois, il viendra plus loin. OK.
Bon, donc là, on va y aller comme ça.
OK. Mais partons maintenant du départ.
En février 1963, c'est la création du FLQ. Il y a un mouvement d'effervescence au Québec, mais beaucoup, là. Il y a le RIN, qui est le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Il y a la Révolution tranquille qui va s'amorcer avec le Parti libéral. Eh bien, il y a des gens pour qui la Révolution tranquille, c'est pas assez rapide. Fait qu'il va y avoir des personnes qui vont fonder le FLQ. Trois personnes, Gabriel Hudon, 21 ans, Georges Shooter, 33 ans, et Raymond Villeneuve, 19 ans. Le cas le plus intéressant là-dedans, d'après moi, c'est Georges Shooter, qui est né à Anvers, en Belgique, qui n'est pas québécois.
Oui, c'est ça.
Ouais. Qui n'est pas québécois et qui dans il vient d'arriver. Mais son parcours, il y a une effervescence mondiale. Au Québec, ça brasse, mais ça brasse dans le monde aussi. Il y a eu les révolutions castristes à Cuba, puis il y a beaucoup de gens qui voient là-dedans une possibilité d'émergence du marxisme puis du communisme dans les pays occidentaux. Donc, justement, Shooter, qui va être... il va aller à Cuba, il va rencontrer Che Guevara. Rien de moins.
Rien de moins.
Rien de moins. Puis il va travailler avec sur... Guevara et ministère de la planification et probablement que Shooter va recevoir une formation sur la guérilla urbaine. C'est lui qui va être l'élément, on pourrait dire, le plus vindicatif et agressif du FLQ.
Okay.
Parce que on peut dire qu'au Québec, on n'a pas une tradition de... je veux pas dire que c'est quelqu'un de l'extérieur.
On comprend bien, oui. Non.
On comprend.
À l'époque, c'était pas...
C'est ça. T'sais, après la rébellion de 1837, ça avait été quand même relativement tranquille au niveau militaire au Québec.
OK. Et puis là, lui, finalement, il s'est fait arrêter, là... en bout de piste ou...
Exactement. Il va se faire arrêter en 63 tout de suite avec une arme remplie d'armes... une voiture remplie d'armes à feu.
OK.
Puis il va être condamné à 10 ans de prison. Puis après 7 ans, il va être expulsé vers la Belgique. Puis il va demander l'asile politique en Suède où il va décéder en 1994.
Donc son lien, lui, on le fait là avec le FLQ. Mais le FLQ en 63 va... commencer ou s'attaquer à des symboles au niveau de l'impérialisme anglo-saxon au Québec,
c'est ça? Exactement. C'est vraiment la base.
Ça part là.
C'est un melting pot de lecture embryonnaire du manifeste du Parti communiste avec... Ils s'attaquent à beaucoup de choses simultanément. Là. Okay. Ils vont s'attaquer, comme la statue de Wolfe chez les plaines d'Abraham. Ils vont faire sauter la statue de la reine Victoria. Ils vont s'attaquer au pont Victoria, mais aussi à l'argent. Un des gros faits du FLQ, ça va être l'attentat contre la Bourse de Montréal qui va faire 27 blessés et des millions en dégâts. Donc, c'est vraiment...
Donc, les grands symboles. On s'attaque aux grands symboles là, de l'époque. Là.
Tout à fait. Là, c'est pas la revendication politique. Là. C'est vraiment des actions concrètes qui sont... très impressionnante pour ce qui est du Québec.
Puis chez nous, parce que là, il y a un lien avec la Gaspésie, parce que à l'été 69, à la maison du pêcheur à Percé, il y a eu justement, il s'est passé bien des choses.
Ben, c'est justement ce qui va être la fondation de la cellule Chénier, qui va enlever Pierre Laporte, avec les frères Paul et Jacques Rose, ainsi que Francis Simard et Bernard Lortie. Ça va être comme le début là. Puis, ils s'attaquent aussi, ils font un manifeste de la maison du pêcheur dans lequel ils disent la Gaspésie est pas à... les ouvriers qui travaillent à Montréal ne peuvent pas se prendre de vacances, n'ont pas les moyens d'aller voir ce magnifique paysage. Ils vont Il dit, c'est seulement des privilégiés, les Américains qui ont accès à ça, puis nous, on veut juste être ici, puis profiter du territoire, puis vous nous évacuez de ça au profit de quelques, d'une poignée de capitalistes. C'est intense. Puis ça, le manifeste se termine, vive la Gaspésie aux pêcheurs d'abord, vive les Gaspésiens libres, vive le Québec libre. Et signer le comité d'action de la Maison du pêcheur.
OK, donc, on a vraiment... Il y a une trace historique, là. Il y a un bon point historique, évidemment, chez nous par rapport à cette crise d'octobre. Bon, maintenant, on va aller aux événements rapidement parce qu'il faut se rendre au 15 octobre. Commençons le 5 octobre. Je pense que c'est là que tout a commencé, là, vraiment sérieusement à brasser.
Après avoir mis des bombes, avoir attaqué au symbole, il passe à vitesse grand V. Là. On s'attaque, c'est l'enlèvement de James Richard Cross, l'attaché commercial de la Grande-Bretagne à Montréal, enlevé par la cellule de libération. Parce que le FLQ était, petite parenthèse, était formé de différentes cellules qui avaient une très grande autonomie et pas une grande coordination à l'œil. Peut-être que les gens qui étaient impliqués là-dedans diraient « Non, nous étions super coordonnés. Ouais. » Et ils vont revendiquer, c'est ça, la libération de prisonniers politiques. Ils vont demander un sauve-conduit vers Cuba. Il y a comme... Souvent, Cuba revient
Dans les demandes.
Dans les demandes. Ouais. Le 8 octobre, jeudi le 8 octobre 1970, le manifeste du FLQ est lu en ondes à Radio-Canada par Gaétan Montreuil. Ça vaut la peine de voir si vous avez quelques minutes. Vous tapez Gaétan Montreuil, manifeste du FLQ, sur YouTube, et vous pouvez avoir ça. Ensuite, le 10 octobre, là, c'est ça encore, les choses, on dirait que c'est comme un crescendo. Là. Le ministre québécois du Travail et de l'Immigration, Pierre Laporte, est enlevé devant sa maison par un autre groupe du FLQ, la cellule Chénier
de la maison de chez
nous. Pêcheur, exactement. Ensuite, le 11 octobre, Pierre Laporte écrit à Robert Bourassa une lettre dans laquelle il l'implore de négocier avec les membres du FLQ parce qu'il lui mentionne, grosso modo, « Après moi, il va en avoir un autre et un autre et un autre. Il faut s'asseoir à la table pour négocier avec lui. » 5 minutes avant l'ultimatum qu'avait lancé la cellule Chénier à Robert Bourassa, il annonce qu'il va négocier avec le FLQ. Malheureusement pour lui, malheureusement pour l'esprit des négociations, il y a quelqu'un à Ottawa qui est beaucoup plus revanchard et vindicatif que notre ami Robert Bourassa.
Un nommé Trudeau.
Pierre Elliott, de son petit nom. Si les gens du FLQ frayaient avec le castrisme, il aurait fallu savoir que notre ami Trudeau, lui, allait passer du temps avec...
Là-bas, oui.
Alors, si c'était dans la guérilla, il savait aussi avoir la main de fer de notre ami Fidel Castro. Donc, le 13 octobre, il y a des troupes militaires de l'armée canadienne est stationnée sur la colline parlementaire. Puis là, il va avoir un moment de l'histoire charnière de l'histoire, une parole célèbre de l'histoire canadienne. Parce qu'interrogé sur la présence de l'armée canadienne dans les rues, Trudeau parle de la nécessité d'entreprendre des actions pour se protéger et ramener l'ordre au Québec. Qui vit à cette époque la crise d'octobre. Tim Ruffle, lui demandant jusqu'où il irait dans la suspension des libertés civiles pour maintenir l'ordre, Trudeau lui répond « Well, just watch me ».
Oui, cette phrase mythique.
Exactement. Ce qui nous arrive à la journée du 15 octobre 1970, 48 ans aujourd'hui, le gouvernement du Québec demande l'aide de l'armée canadienne. Plus de 8000 soldats s'installent autour de l'édifice du Parlement à Ottawa. C'est pas encore les mesures de guerre. Ça sera pour demain.
On va s'en reparler demain.
Exactement.
Félix Fournier, merci. On fait un suivi donc cette semaine de cette crise d'octobre qui a marqué l'histoire du Québec.
Au jour le jour.
Au jour le jour. À demain.
À demain, Richard.